J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un homme, ou plutôt l'histoire d'un professeur, et même d'un professeur de désespoir. Sa vie, il la passe à dénigrer la vie. Il serait bien du genre à proférer comme Cioran que le seul inconvénient c'est d'être né, ou comme Welbeck qu'il a toujours vu les féministes comme d'aimables petites connes, ou comme Schopenhauer, leur maître à tous, que l'amour n'est qu'une ruse de l'espèce qui se joue de nos désirs pour se perpétuer comme espèce. Parce que le professeur de désespoir a un problème avec sa vie, il voudrait que nous ayons tous un problème avec la vie. Parce qu'il a l'enfantement en horreur, il voudrait que nous le rejoignions dans sa grimace ou son ironie, qui ne sont que les caches-misères de sa peur. Parce que si souvent, il a été mal aimé par sa mère ou a grandi sans elle, il emploie toute son intelligence à dénigrer le maternel, et plus encore, le maternel intelligent, le féminin pensant, le sensible, le sentant, le corps, et pour tout dire, le vivant. Vous l'avez compris, le professeur de désespoir met tout son talent à faire de sa névrose le la de la condition humaine. Mais pourquoi ai-je choisi de vous raconter l'histoire de ce professeur de désespoir le jour où je reçois une grande romancière et essayiste féministe ? Parce qu'elle a publié, il y a près de 20 ans, un essai qui m'avait à l'époque sidéré et qui avait été, je crois, mal compris, justement intitulé « Professeur de désespoir », dans lequel elle démasquait ses 10 professeurs, mais également l'enthousiasme qu'ils suscitent, en montrant tout le mal que fait parfois le manque d'amour, en montrant aussi, affirmation étonnante pour une féministe, que si tous ces professeurs de désespoir avaient eu des enfants et avaient passé du temps avec ces enfants petits, ils auraient peut-être, tout simplement, dit moins de conneries. Parce que c'est une féministe qui ne juge pas scandaleux d'interroger aussi la souffrance des hommes, et même qui ne trouve pas scandaleux de prétendre qu'il y a, entre les hommes et les femmes, accrochez-vous, des différences. Depuis son premier roman, Les Variations Goldberg, en 1981, elle a obtenu le prix du Livre Inter avec Instruments des Ténèbres, le prix Femina avec Lynn de Faye et écrit une cinquantaine de livres. Auteure de L'Empreinte de l'Ange, de Bad Girl ou de L'Arbre de l'Oubli, elle vient de sortir aux éditions L'Iconopop un recueil de poèmes intitulé « Choses dites » dans lequel elle revient sur un amour passion de sa jeunesse, un amour condamné dès le début à l'échec. Vous l'avez reconnu, pour parler du manque d'amour et du trop d'amour, c'est Nancy Houston qui nous a rejoint ce matin, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à faire résonner ces deux belles questions qui, à mon avis, n'en font qu'une. Que nous fait le manque d'amour? Que nous fait le trop d'amour?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Nancy Houston.
Bonjour Charles Pépin. Je dois avouer que j'ai un immense sourire sur le visage, j'espère que tout le monde le voit.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait rire?
Je trouve cette introduction réjouissante.
Ben oui, c'est réjouissant parce que d'abord, moi, bon, pour parler un peu de choses personnelles, moi j'avais été scotché par votre livre. Alors c'est pas du tout l'actu, vous avez écrit depuis au moins 30 livres. On va beaucoup parler de votre actualité, choses dites à l'Iconopop, mais c'est vrai que moi, le premier livre de vous que j'ai lu quand j'étais relativement jeune, c'est ce livre, Professeur de désespoir, qui m'avait sidéré, parce que, pour tout vous dire, je suis un lecteur de Thomas Bernhard, un lecteur d'Elfriede Jelinek, un lecteur de Welbeck, un lecteur de Cioran, un lecteur de Kundera, et vous leur réglez leur compte de façon très sensible, très belle, en montrant justement que leur pessimisme est une sorte de volonté d'universaliser leur névrose, au fond.
C'est une belle façon de le résumer. Et il faut dire que ce qui m'a motivée pour démarrer cette réflexion, 2005, c'était de constater que ça se limitait à notre sphère, au monde, disons, des nantis, les occidentaux bien portants. Et plus on était bien portant et un peu snob, et plus on allait au théâtre, plus on se plaisait à dire du mal de l'espèce humaine.
Et de la vie, bien sûr.
Et de la vie. Et Romain Gary avait une très belle phrase pour résumer cela. Il disait « Le désespoir est un luxe comme le cigare
». Ouais, c'est excellent. Je ne connaissais pas. Mais d'ailleurs, c'est vrai que vous vous intéressez beaucoup à d'autres cultures, à d'autres mondes. Quand vous vous intéressez sur des destinées de prostituées, elles peuvent venir d'Afrique, d'Amérique latine. D'ailleurs, je crois que vous sortez en mars prochain Francia, qui est l'histoire d'une prostituée transsexuelle qui vient de Colombie, c'est ça ?
Exactement.
Donc on voit bien que ce que vous avez l'air de dire, et c'est une continuité dans votre œuvre, c'est que peut-être si Welbeck ou Kundera, ils avaient un peu plus voyagé, tout simplement en fait, s'ils s'étaient intéressés à d'autres mondes, peut-être qu'ils auraient tout simplement vu la vie autrement, et que peut-être aussi ce qui leur a manqué dans ce rapport à la vie, bah, c'est aussi peut-être tout simplement d'avoir des enfants qui grandissent, qui ont besoin du goûter, qui ont un cartable, et que ça manque aussi dans leur rapport à la vie, au fond.
Oui, il y a cette infantophobie, on peut dire, oui. Chez eux. Génophobie, je l'ai appelée, je crois, dans le livre, de la haine de l'engendrement. Ouais. Ce qui est quand même légèrement paradoxal, parce que pour réfléchir, pour parler, il faut avoir été engendré. Il faut quand même passer par le stade où on a un corps, même si pour certains d'entre eux, c'est bien regrettable. Je me souviens d'une phrase de Sartre disant que, ben voilà, pour laisser toute une étagère ou deux étagères de livres, il fallait bien avoir être passé par la phase de l'incarnation, même si ça l'embêtait beaucoup. Ouais. Il vomissait aussi le chlorophylle, tout ce qui était charnel. Et ce qui était intéressant pour moi d'analyser dans cet essai, Professeur de désespoir, c'était de voir la rencontre entre un désir idéologique de la société et un vécu personnel d'un enfant malheureux. Et ce qui était très frappant dans le cas des garçons, c'était pas forcément le cas des femmes dont j'ai parlé, comme Elfriede Jelinek, vous avez mentionné, ou Christine Angot, c'était... Charlotte Delbos est du côté anti-désespoir. Ces garçons avaient tous été envoyés en pension. C'est très important.
C'est dingue, ouais.
Et ça veut dire que tous avaient été obligés de prouver à un âge très très jeune, très fragile, qu'ils n'avaient besoin de personne, qu'ils pouvaient se débrouiller absolument sans personne. Et ils s'étaient durcis pour ne pas s'effondrer intérieurement. Et c'est là les noyaux de leur théorie d'adulte.
C'est dingue.
Alors que nous, la société des consommateurs de livres et de théâtre et de cinéma, quand nous aimons ces hommes-là, c'est parce que nous trouvons que c'est très acerbe, ils décochent des flèches empoisonnées et ça nous fait plaisir d'aller. Ça me fait rire. J'entre encore aujourd'hui et j'étais à l'Orangerie à Genève l'autre jour pour voir fin de partie de Beckett. Et je vois tous les jours ces blindés. Il y a 200, 300 personnes blanches, bien nourries, bien à l'aise dans leur vie.
Qui s'ennuient. Et ça va les exciter d'avoir un peu de pessimisme et de nihilisme. Au fond, c'est ça que vous dites.
Exactement.
C'est tellement beau. Je vous propose d'écouter l'un d'eux, enfin pas sa voix. C'est Houellebecq qui a écrit dans son texte Mourir, qui parle de sa mère. Et c'est lu par Agathe Novak, le chevalier.
Lorsque j'étais bébé, ma mère ne m'a pas suffisamment bercée, caressée, cajolée. Elle n'a simplement pas été suffisamment tendre. C'est tout. Et ça explique le reste. Et l'intégralité de ma personnalité à peu près. Ces zones les plus douloureuses en tout cas.
Alors Nancy Houston, j'ai entre les mains Professeur de désespoir. C'est exactement votre thèse. Mais Houellebecq, je ne savais pas qu'il en était si conscient. Je pensais tout le temps qu'il le mettait dans la bouche de ses personnages. Et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir ce texte autobiographique où il dit lui-même, en fait, tout vient de là, de ma mère qui ne m'a pas pris dans ses bras.
Je ne connaissais pas non plus ce texte. J'étais en train de lire un livre de Oriana Fallaci qui s'appelle Un homme, sur le révolutionnaire qui avait attenté à la vie du dictateur grec en 63, qui s'appelle Alekos Panagoulis. Et c'est quelqu'un qui a passé 5 ans en prison, qui a été torturé, etc. Et on apprend au cours du livre que sa mère le frappait tellement qu'il se cachait sous le lit ou dans des placards et qu'il ne voulait pas sortir. Et finalement, il a reconstitué ce besoin de cellule dans sa façon de se comporter adulte. Et ça lui a manqué quand on l'a libéré.
Ouais, et c'est très troublant quand on parcourt cet essai, Professeur de désespoir, Kundera, Sioran, Houellebecq, toutes ces figures ont quand même pour point commun ce rapport problématique à leur mère. Alors ça fait partie d'une généalogie au fond de la haine de la vie. Et on a l'impression, enfin c'est ce que vous écrivez, qu'ils voudraient en faire une vérité de la condition humaine alors qu'ils sont simplement peut-être au fond des victimes aussi.
Ils détestent aussi les enfants parce qu'ils ont besoin de se séparer d'eux-mêmes, l'enfant qu'ils ont été, qu'ils ont besoin de dire je ne suis plus là, je ne suis plus ça, je suis quelqu'un d'autre, etc. Donc de refouler et d'oublier cette fragilité extrême de l'enfance. Bernard est encore un très bon exemple de
ça. Alors on va bien sûr arriver à votre nouveau recueil de poèmes, mais avant cela, je rappelle que ce qui est très troublant dans votre travail, c'est que vous vous intéressez au fait que ça nous fascine. Alors, on a compris que leur problème, c'est ça, qu'ils ont un problème avec leur mère. Peut-être, d'ailleurs, vous les comprenez, parce que vous avez eu aussi une mère, vous, qui, en quelque sorte, on pourrait le dire comme ça, vous a abandonné, au fond.
Bah, carrément. qui n'a pas été une super mère de ce point de vue-là, oui.
Bien sûr. Mais pourtant, vous allez plus loin en disant, mais En fait, ça nous excite, nous qui n'avons pas connu cette souffrance, et tous ces bourgeois ou ces occidentaux blancs, comme vous le dites très bien, eh bien, ils se nourrissent de ça, comme si ça les divertissait de leur ennui. Je vous propose d'écouter un son où on entend très bien la manière comme ça dont le bourgeois ricane de cette espèce de pessimisme nihiliste, alors que peut-être il devrait mieux le combattre.
Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont on... dont sont traitées les femmes?
Les femmes, c'est épouvantable. Ouais. C'est... Parce que soit elles sont déifiées, la femme, soit c'est les pétasses, les, etc., les vachasses quand elles allaitent, les pétasses nazies quand elles sont blondes. Enfin, la femme de 40 ans en plus. Alors, la description de la femme de 40 ans avec la vulve pendante. Non, c'est terrible. Ouais. Alors, la femme laide n'a aucun espoir d'être aimée. J'ai eu beaucoup de mal.
C'est réaliste sans plus.
Hein. Merci. Super. Sympa.
Alors Nancy Houston, est-ce que vous entendez ce son absolument dingue? C'est Marie Nimier qui décrit la façon dont Houellebecq traite les femmes dans ses livres, de façon sordide, et puis lui, il dit, mais c'est réaliste sans plus, du bout de sa bouche comme ça, et tout le monde se marre.
Oui, c'est pas très drôle, hein? C'est pas très drôle. Et ça
est en 98,
on
à Bouillon de Culture.
Que ça ne doit pas se passer comme ça, effectivement, dans les pays africains ou les pays qui ont d'autres types de problèmes, qui ont des problèmes, en fait. On s'est dit que notre monde n'a pas suffisamment de vrais problèmes et a besoin de se raconter des sornettes comme ça.
Ouais.
Ceci dit, la phrase de Schopenhauer selon laquelle l'amour serait une ruse... justifiant la reproduction dans notre espèce, je ne suis pas loin de penser que ça, pour le coup, c'est vrai, mais dans la mesure où c'est une ruse qui fonctionne qui se développe dans des milliers et des millions de variations infiniment passionnantes et intéressantes, c'est valable. Parce qu'on est probablement l'unique espèce mammifère à vraiment cultiver l'amour sous forme d'histoire.
Ouais.
On se raconte des histoires d'amour. Barthes le disait bien, n'est-ce pas, fragment du discours amoureux, d'un discours amoureux. Et ce livre de poésie, chose dite, ouais, date en fait de 15 ans avant Professeur de désespoir. C'est très vieux livre, il a 32-33 ans. Et je l'aime beaucoup encore parce qu'il a un petit air désabusé qui n'en reste pas moins tendre. Mais je pense que c'est carrément un petit livre schopenhauerien.
Mais oui, c'est pour ça que la transition est parfaite. Merci, Nancy Houston. Je l'ai entre les mains. Alors, il est sorti il y a longtemps, mais là, c'est une édition un peu nouvelle avec la traduction
en français. Il n'était jamais sorti. Jamais sorti, nulle part.
Vous avez fait des lectures, je crois.
Voilà, c'est ça. Sous pseudonyme.
Alors, je vais lire quelques passages qu'on comprenne. Chose dite de Nancy Houston. Réassurance. Tu sais, j'ai des démons, j'ai dit. Donc évidemment, c'est une nouvelle histoire d'amour. C'est un commencement d'histoire. On sait que l'histoire va finir très vite. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est peut-être schopenhauerien. Il n'y a pas d'illusion. On n'y croit pas. Même si on voudrait y croire. En fait, on n'arrive pas à y croire. Donc je vous lis, Nancy Houston. Tu sais, j'ai des démons, j'ai dit. T'en fais pas, tu as dit. Je les tuerai. J'ai des névroses aussi. T'en fais pas, tu as dit. Je les tuerai. Mais j'ai aussi des enfants, des amis, un autre monde, une autre langue et mon précieux travail à accomplir. C'est pas grave, tu as dit, ça ira, ne t'en fais pas.
Oui, j'espère qu'on rigole.
Alors, est-ce que vous voulez le lire en anglais? D'ailleurs, parce que je l'ai là devant les yeux.
Avec joie.
Parce que c'est beau de vous entendre en anglais aussi. Parce que je précise pour les auditeurs que dans cette version, à l'Iconopop, on a les deux. On a à gauche en anglais, à droite en français.
Oui, je suis très reconnaissante à l'Iconopop d'avoir accepté ce principe d'édition bilingue parce que ce sont des poèmes que j'ai écrits en anglais. C'était juste au moment où je commençais enfin, après 15 ans à Paris, de revenir à ma langue maternelle.
Ouais.
Reassurance. I said, I have demons. That's okay, you said, I'll kill them. I said, I have hang-ups. That's okay, you said, I'll kill them. I said, I have children, I have friends, I have another world, another language, and my precious work to do. That's okay, you said, that's okay. Don't worry.
C'est très drôle. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que vous qui avez travaillé jeune avec Roland Barthes, vous avez fait une thèse avec lui sur les jurons, je crois, eh bien, c'est presque ici les fragments d'un désastre amoureux qui est annoncé depuis le début, et comme si, même au cœur de l'illusion, on avait déjà la lucidité que ça va mal se passer.
C'est souvent comme ça, non ? Je ne sais pas.
Oh non, souvent on y croit un peu plus, non ?
C'est-à-dire, j'ai écrit ces poèmes lorsque j'étais dans un état de souffrance maximale. C'était véritablement vital. Je devais passer, je les sentais venir jour après jour. Il y en avait un ou deux par jour qui m'aidaient à m'accrocher à la vie parce que ça me faisait rire. Et c'était ma seule solution pour ne pas m'effondrer. Donc, au début, on y croit, mais je ne raconte pas ça comme une histoire où on est innocent. Je raconte du toujours déjà fini. Donc, effectivement, ce sont des sortes de poèmes harakiri où l'amour est en train de se poignarder dans le vide tout de suite.
Vous dites des poèmes western.
Ouais, c'est comme vous entendez dans ma voix si je les lis en anglais, ce que je vais faire bientôt à la Maison de la Poésie avec peut-être un Stetson sur la tête, un chapeau cow-boy de ma ville natale.
Du Canada, c'est ça ?
Du Canada, de l'ouest du Canada. Donc moi, je viens vraiment d'une ville de cow-boy et d'Indiens, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire, c'était ma culture, l'idée de ces grandes bagarres. Et j'ai acheté ce chapeau noir Stetson dans ma ville natale, et puis en revenant à Paris, j'ai regardé, j'ai vu que c'était fabriqué au Sri Lanka. Ça, c'est typique de mon pays aussi.
Ouais.
C'était le garçon dont j'étais amoureuse. Pour une fois, c'était quelqu'un qui venait de ma culture, qui venait du Middle West américain, qui avait un background comme ça, à peu près comme le mien.
Il y a plein de rumeurs qui ont circulé sur son compte, on ne sait pas qui c'est.
C'est pas grave, je peux vous dire. Il s'appelait James Tate, c'était un grand poète américain.
Ah ouais, d'accord.
Et voilà, il n'est plus de ce monde, et donc je me suis permise d'en parler.
Je lis un autre extrait, La Chute. Donc Nancy Houston, votre recueil de poèmes qui vient de sortir, Chose dite aux éditions L'Iconopop. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est dans cette collection qu'il y avait eu les très beaux poèmes de Dominique A., qu'on avait aussi reçu à ce micro. Donc je vous lis Nancy Houston, La Chute. En tombant, convaincu que ce vers quoi on tombait était l'amour. Oh non, disions-nous pour nous-mêmes et pour l'autre, pas ça! Pas ça encore, pas ce torrent qui roule et chamboule tout, pas cette invasion soufflante de vie à travers le corps, pas cette exquise électricité fouettant les volutes blasées du cerveau, trop tard, trop beau pour être vrai. Ce furent nos seuls et uniques propos lucides pendant des mois.
Vous voyez que les volutes du cerveau sont déjà blasées.
Eh oui, c'est pour ça que ce qui est troublant, et c'est qu'en fait, moi quand je préparais l'émission, je pensais que le rapport entre professeur de désespoir et ces poèmes étaient forcés, en vérité. Je me disais, ok, dans un cas, ils ont manqué d'amour et ils deviennent des nihilistes. Dans l'autre cas, c'est un amour de jeunesse, un peu passionnel, et il y avait juste la thématique de l'amour. Mais en fait, si on va plus loin, c'est beaucoup plus intéressant, vous leur ressemblez un peu. Parce qu'il y a cet humour chez Houellebecq, il y a des choses très drôles aussi chez Cioran, il y a ces moments d'émerveillement chez ces nihilistes au cœur de la noirceur, et au fond, ça vous ressemble un peu quand même.
Mais je le dis dans Professeur de désespoir, dans le premier chapitre, je crois... que si j'ai envie de travailler sur ces écrivains, c'est qu'ils m'ont complètement séduite et fascinée pendant très longtemps, parce que moi-même, à 17, 18, jusqu'à peut-être 25, 30 ans, j'étais profondément désespérée et j'étais complètement convaincue de la justice de ces et justesse de ces théories.
De leur regard aussi.
De leur regard. Et donc, si j'ai réussi à sortir de là, c'est en partie grâce à la maternité, mais c'est aussi grâce à mes voyages dans le reste du monde et la possibilité que j'ai eue d'observer d'autres manières de vivre.
Je vous propose d'écouter la voix de celui qui fut votre professeur et qui parle très bien du commencement, et Roland Barthes.
Je pourrais dire tout simplement, je l'ai dit d'ailleurs une fois, c'est parce que j'aime beaucoup commencer. J'ai un plaisir d'invention à trouver ou à faire l'attaque d'un paragraphe, l'attaque d'un fragment. J'aime bien commencer, j'aime bien rompre, j'aime bien imaginer la rupture avec le rien qui précède. Alors évidemment, en multipliant les fragments, je multiplie les plaisirs d'attaque.
C'est joli, hein ? Le plaisir d'attaque. Au fond, ce qui compte, c'est le début.
Mais oui, et ça fait des dangers aussi. Ça fait des dangers. on dit très rarement, on parle rarement de notre époque, pourtant très, très attentive à ces choses, du livre de Barthes, Incident, où il raconte son tourisme sexuel au Maroc notamment. Il donne les noms de 40 jeunes Marocains qu'il a payés pour lui faire l'amour, etc. Ouais. Ça aussi, c'est des plaisirs d'attaque qui sont un tout petit peu plus glauques.
Ouais. D'ailleurs, je précise que vous êtes une des premières, bien avant Denise Bombardier, canadienne comme vous, à avoir dénoncé dans un livre les agissements de Gabriel Masneff. Vous étiez déjà là. Mais juste pour revenir sur ce plaisir d'attaque qui peut être immoral comme dans ce cas-là, mais parfois aussi il a quelque chose de délicieux, notamment quand c'est juste du style ou quand c'est au fond le début de l'histoire. Et c'est ça qui se passe dans cette histoire d'amour. Il y a un plaisir du commencement qui n'est pas entaché par le fait qu'on sache qu'il n'y aura pas de suite.
Oui, il n'est pas entaché. Peut-être que... Mais quand on le lit, il est déjà entaché.
Quand on le lit, c'est-à-dire
En lisant le livre, nous savons déjà va mal se terminer. Ouais. Et nous savons peut-être, en commençant nos histoires d'amour, tout le monde nous dit aussi bonne chance, enfin, tant que ça dure, c'est bien, etc. Ouais. Et on est toujours très, très vexé d'entendre ça, parce que amour rime avec toujours, dans toutes les poésies de la langue française. Et puis, on constate qu'il faut mettre de l'eau dans son vin, voire balancer la bouteille par-dessus bord.
Je lis un autre extrait de votre recueil de poèmes, Nancy Houston, « Conversation tard dans la nuit ». Au cours de nos conversations, tard dans la nuit, chacun jetait son passé aux pieds de l'autre, et son présent au cœur de l'autre, et son avenir à la figure de l'autre.
Ben oui, un peu ça.
Eh bien, on va laisser ça résonner en écoutant Françoise Hardy. Nous sommes toujours, et c'est une immense joie, avec Nancy Houston, et nous parlons de la beauté des commencements, du pessimisme, du féminisme, de l'amour au fond.
France Inter, sous le soleil de Platon.
Elle dit « on ne pense à rien malgré ses blessures ». En fait, s'il n'y avait pas de blessures, il n'y aurait sûrement pas de poésie, c'est ça le truc. Et quand vous lisez ces poèmes et que je me rappelle le moment de les écrire ou quand Barthes évoque ce plaisir de l'attaque, je me rappelle véritablement à quel point c'est guérisseur. On a presque l'impression de prendre les deux côtés d'une plaie et de faire des points de suture grâce à ces mots, grâce à la densité et le son des mots, le rythme des mots. C'est ça. Je fais un atelier d'écriture de poésie avec une association et c'est une des choses les plus importantes, c'est de ne pas rejeter le négatif parce qu'on travaille avec le négatif. Si toutes les histoire d'amour était belle et éternelle, il n'y aurait rien à dire. De même que le paradis de Dante est tellement plus ennuyeux que son enfer.
Oui, d'ailleurs, vous évoquez souvent une sorte de proverbe africain qui dit « La vie ne nous fait que des cadeaux en bien et des cadeaux en mal ».
Exactement.
Grande Alors, sagesse. Peut-être faut-il toutefois, quand la vie nous fait un cadeau en mal, donc une blessure douloureuse, pour vous, ça a été d'abord l'abandon de votre mère et puis d'autres blessures. Encore faut-il avoir les mots dont vous parlez justement pour réussir à sublimer et à faire de ce mal un cadeau en mal. D'ailleurs, je crois que dans votre histoire, vous avez très vite eu les mots puisque vous avez correspondu avec votre mère qui vous avait abandonné quand vous aviez 6 ans. Je crois qu'il faut préciser pour tout le monde un peu ce qui s'est passé. C'était comme une décision féministe de sa part puisqu'en fait, elle voulait faire des études, une thèse, et son mari, votre père, lui a dit, ben non, en fait, tu dois t'occuper des enfants, vous étiez 3, je crois. Et vous aviez, vous, 6 ans, avec 2 frères et sœurs. Et il lui a dit, si tu pars, au fond, je vais te remplacer par une autre femme qui s'occupera des enfants. Et elle a dit, ok, ben je pars. Et vos parents vous ont annoncé ça, tous les deux, comme une décision mûrement pensée. Et elle a fait ça. Et vous dites, de façon incroyable, évidemment, il y a eu la colère, de la rage, mais que vous saluez quand même son courage féministe.
Mais totalement, et même si elle était partie pour une autre raison, pour un autre amour ou une passion, comme je l'ai raconté dans La Virevolte, une passion artistique. La Virevolte est l'histoire d'une danseuse qui part pour poursuivre sa carrière de danseuse et laisse ses 2 filles. Mais même si elle était partie de cette façon-là, qui est peut-être plus valorisante de son point de vue, je crois que la douleur était pareille, mais je lui dois tout de toute façon, parce que avec cette immense déchirure de début de la vie, il a fallu que je travaille, que je lutte de toutes mes forces pour me maintenir à flot. Donc je suis passée par des phases difficiles, c'est vrai que vous l'avez évoqué. J'ai parlé aussi de mon désespoir à l'adolescence, c'était très très profond. J'aurais pu y rester peut-être, mais quand je vois ma vie maintenant et je vois que je fonctionne depuis 50 ans dans un pays étranger et j'écris mes livres dans cette langue étrangère et j'ai cette chance d'être à la fois dans une société et un peu à l'extérieur, de ne pas me confondre avec elle, donc d'avoir cette distance précieuse de tous les artistes pour pouvoir voir notre monde, on doit rester un petit peu à distance, on ne peut pas être noyé dedans et je lui dois tout ça, elle est toujours en vie, on se parle toujours.
Mais vous voulez dire que, quelque part, son abandon, il faut quand même le nommer comme ça, vous a libéré de la langue maternelle, au fond. Vous a
Mais
ouvert à d'autres
chacun
langues.
Des enfants a trouvé sa solution pour survivre à cette catastrophe. C'était pas la même chose pour un garçon que pour une fille, pas la même chose pour une fille de 6 ans que pour une fille de 3 ans. Mais pour moi, c'était ça la solution. C'était d'abord écrire des lettres, effectivement. Donc je remarque, si je regarde mes livres, il y en a plusieurs qui utilisent la deuxième personne intime, comme ça, le tu. Ouais. Je le fais avec Romain Gary, je le fais avec Griselle d'Israël et d'autres. Même avec Paul Pot, je crois,
ouais.
parce que je me suis habituée à raconter ma vie et à me voir en me présentant, en m'expliquant à quelqu'un qui était loin. Et ça, j'aime bien dire, c'est ça qui m'a faite femme de lettres.
Parce que si votre mère était restée pour vous, elle aurait été enfoncée dans les tasses ménagères, dans le foyer, comme sa mère et sa grand-mère.
Oui, c'est ce qu'elle refusait de toutes ses forces. Et nous étions à l'époque du mystique du féminin, enfin, le retour des femmes à la maison après la guerre. Elles avaient été, leurs énergies avaient été requises dans toutes les usines de fabrication d'armement et toutes les usines en général pendant la guerre. Et maintenant, ben non, tout le monde devait se satisfaire d'avoir un linge plus blanc et un aspirateur puissant et autant d'appareils ménagers que la voisine et ainsi de suite. On le voit très bien dans The Hours, dans l'histoire Il y a trois histoires. Il y a une histoire d'une femme qui quitte son enfant et c'est exactement l'ambiance de ma mère. Et je n'ai aucun mal à m'identifier à sa rage et sa frustration de l'époque.
Mais ce qui est troublant, c'est que ce manque de mère chez les auteurs nihilistes pessimistes que vous analysez dans Professeur de désespoir les a rendus nihilistes, les a fermés finalement à une forme de tendresse dans le regard, les a fermés à une forme d'ouverture, celle qu'on entend dans le poème d'Hölderlin qui dit « Viens, ami, entre dans l'ouvert ». Tandis que chez vous, ça a plutôt nourri une capacité d'ouverture. Et même si votre féminisme est quelque part ce que vous devez à cette décision courageuse et très violente de votre mère, vous avez de la douceur dans ce féminisme. C'est ça qui est très, très intéressant, je trouve. Notamment, vous êtes une féministe qui osait interroger la souffrance des hommes. Vous êtes une féministe qui osait dire, par exemple, que beaucoup d'hommes sont maltraités par leur mère et que c'est une souffrance qui est tue, que peut-être on va la découvrir bientôt.
S'il y avait un MeToo de ce côté-là, je pense qu'on serait inondé de témoignages. Sauf que les hommes sont très stoïques. Et je pense beaucoup à ça en ce moment, le stoïcisme des hommes. Je pense à toutes les situations dans la vie des hommes, dans le monde, où ils ne peuvent pas parler. On ne peut pas parler quand on est un chasseur. On ne peut pas parler quand on est un paysan sur une machine agricole. On ne peut pas parler quand on est dans une usine. On ne peut pas parler quand on est sur un chantier avec un casque en train d'utiliser des marteaux-piqueurs. On ne peut pas parler. Les hommes ne peuvent pas parler. Les femmes, dans presque toutes les situations de leur vie, elles peuvent parler. Et elles ne s'en privent pas. Elles sont les responsables des échanges, d'histoires, de gossip, de partage sur les enfants, ceci, cela. On peut dire que c'est banal, que c'est bête, etc. Mais ça fait aussi le tissu de la société. On demande aux hommes de ne pas parler, de ne pas montrer leurs émotions. S'ils doivent partir au casse-pipe, et Dieu sait qu'ils partent au casse-pipe dans le monde entier, continuent de partir dans les guerres, on le voit ça sur nos écrans tous les jours, ils ne peuvent pas parler. Ils doivent juste obéir. Donc, c'est
terrible. Mais c'est quand même... J'entends bien ce que vous dites et j'entends cette tendresse de votre regard que j'évoquais justement. Après, on pourrait quand même vous objecter qu'il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent pas parler justement, qu'elles ont été abusées, violées, qu'elles n'arrivent pas à parler, qu'elles mettent 40 ans à réussir à parler et que le papotage que vous avez évoqué ne suffit pas à compenser cette espèce de silence parfois et de déni ultra violent.
Absolument. Et j'ai des livres qui portent aussi sur le viol, qui portent sur l'inceste, qui portent sur ces thèmes-là. J'en ai soupé aussi. Ma parole est elle-même une parole de traumatisée sur ce plan. Donc je suis, mais je ne suis pas du genre à jeter l'opprobre sur les hommes parce que je n'oublie jamais qu'ils ont été des garçons. Donc
des
et parce
garçons,
que aussi je vais beaucoup dans les prisons et je ne peux jamais dire voilà ils méritent la prison jusqu'à la fin de ses jours. J'ai passé trop de temps en prison pour pouvoir prononcer une phrase comme celle-là.
Ouais. D'ailleurs j'ai lu deux petites conférences de vous qui sont devenues des petits livres Sois belle et sois fort où vous donnez presque des conseils pour que les jeunes garçons apprennent à sortir de la pornographie, apprennent à respecter le corps, le désir des femmes. J'ai trouvé ça avec des mesures très concrètes que vous proposez, que j'ai trouvé très intéressantes. Donc on voit bien votre regard qui est passionnant, qui est le regard d'une féministe assez atypique, et vous avez aussi la légitimité d'une vie entière de féminisme avec beaucoup d'œuvres. Mais vous dites quand même des choses dont vous savez très bien qu'aujourd'hui, certaines féministes radicales ne peuvent pas les entendre. Je vous cite, la femme n'a pas à jeter puissamment sa semence hors d'elle-même pour devenir mère, elle accueille quelque chose. Je vous cite, Nancy Houston, l'érection intempestive des hommes n'a pas d'équivalent chez les femmes. Eh bien écoutez, je pense que vous avez raison, que c'est juste du bon sens, que c'est juste une description des choses, mais qui quelque part aujourd'hui n'est presque plus audible.
Oui, vous savez, quand je suis arrivée en France en 73, il y avait, j'étais très étonnée de découvrir une idéologie dominante dans les milieux qui étaient les miens, intellectuels de gauche, etc. C'était le marxisme. Et tout le monde ne jurait que par le marxisme. Et il y avait un certain nombre de dogmes qu'il fallait respecter. Maintenant, c'est une certaine théorie des genres qu'il faut respecter de façon tout aussi dogmatique et soumise. Et moi, je suis incapable de le faire parce que, oui, peut-être parce que j'ai un certain bon sens, mais aussi parce que je suis écolo étant écolo, je vois que les êtres humains font partie du domaine du règne animal. Et étant du règne animal, je vois que chez tous les animaux, il y a mammifères et primates, ce que nous sommes, il y a des différences entre les sexes, il y a des mâles et des femelles. Ensuite, je vais absolument pas dire qu'on n'est pas libre de changer de sexe si on le souhaite, etc. Mais dire que ça relève uniquement de l'idéologie et qu'on nous a annoncé à notre naissance qu'on était ceci ou cela et que ça a entraîné toutes sortes de différences qui étaient complètement ridicules, ben non, ce n'est pas vrai. C'est absolument universel dans toutes les sociétés du monde, par exemple, que les garçons se comportent de façon plus transgressive, que les garçons valorisent plus les activités collectives et ainsi de suite, pour des raisons de survie de l'espèce. Et encore une fois, oui, je suis très, très darwinienne.
Oui, tout à fait, mais ça veut dire aussi que vous êtes sensible à la réalité de ce que l'évolution a produit comme différence, au fond.
Oui, parce que Darwin, on parle toujours de la sélection naturelle, mais on oublie de parler de la sélection sexuelle qui était l'autre versant de Darwin. Et nous, les femmes, pour des raisons aussi de survie, au long des millénaires et des milliers de millénaires, on a sélectionné les hommes avec qui on voulait faire nos bébés pour leur force physique et pour leur puissance. Et malheureusement, ça a sélectionné une race d'espèces humaines avec des mâles de plus en plus violents, de plus en plus forts. Et c'est en train de se retourner complètement contre la survie, pas seulement de notre espèce, mais de toutes les espèces animales et végétales
sur la Terre. Et d'ailleurs, je précise deux choses. Pour que les choses soient bien claires, dans votre prochain roman, Francia, à paraître en mars, l'héroïne est une femme trans. Donc loin de vous l'idée d'enfoncer chacun à jamais dans sa nature, loin de vous cette idée. Mais toutefois, dans cette façon que vous avez d'être au fond naturaliste, de penser que la nature existe, eh bien justement, dans Professeur de désespoir, vous montriez qu'il y avait dans cette espèce de misanthropie de certains théoriciens nihilistes, dans cette espèce de misogynie aussi, comme une forme de manière de ne pas supporter, de ne pas pouvoir enfanter. C'est au fond la même idée.
Je pense que les hommes ont toujours été aussi impressionnés et jaloux par cette capacité féminine d'enfanter. Je suis très loin de moi, évidemment, l'idée de dire que toutes les femmes devraient enfanter. Par contre, je pense que ce serait bien que toutes les femmes réfléchissent à cette question et arrêtent de, si elles peuvent, qu'elles cessent de désirer des hommes puissants. Ça serait bien de désirer les hommes doux, si on peut. Mais on a fait des expériences scientifiques qui montrent que les femmes n'ont pas les mêmes goûts quand elles ovulent et quand elles ne sont pas en période d'ovulation. Pendant les quelques jours où elles ovulent, elles ont tendance à préférer des visages de tueurs, d'hommes des cavernes. Et les trois autres semaines du mois, elles préfèrent l'image du garçon, the boy next door, le gentil garçon qui va bien gagner sa vie et bien s'occuper des enfants avec moi. Et ça, c'est des choses qu'on ne sait pas parce qu'on n'est pas très intéressé en France par la biologie. On aime bien tenir des grands discours généraux sans regarder comment ça se passe pour de vrai.
Mais la biologie, c'est aussi la vie, cette vie de laquelle ces professeurs de désespoir sont précisément
donc
coupés.
Donc il faut que les femmes se mettent à désirer les hommes doux.
Eh bien, la route est longue. Alors, on va écouter un homme doux, justement, Romain Gary.
Le drame des hommes et des femmes, en dehors des situations d'amour, en dehors des situations d'attachement profond, est une sorte d'absence de fraternité qui fait que parler sur ce qu'il y a de profond, de dangereux, de menaçant, leur est totalement impossible. Vous avez des couples qui finissent une vie sans avoir parlé de ce qui les sépare et de ce qui aurait pu leur être épargné par des conversations. C'est absurde parce que très souvent, ces problèmes ne sont même pas d'ordre psychanalytique profond. Ils sont simplement dus à des siècles et des siècles de préjugés qui font que l'homme doit conserver son image virile et supérieure, la femme doit conserver son image féminine, douce et soumise, et que finalement, cette égalité dans l'explication franche, ouverte, libre, y compris des problèmes sexuels, leur est un tabou.
Romain Gary.
Personne n'était plus tombeur que Romain Gary.
Mais d'ailleurs, vous aussi, un petit peu, vous avez été, quand même, vous le confessez, que vous avez été...
assez tombeuse.
Je ne dirais pas une mangeuse d'hommes, mais en tout cas, ce côté de la séduction qui fait que vous aimez les commencements, que vous êtes addict au commencement, qu'il y a une excitation du commencement, que c'est comme une drogue, vous l'avez aussi connu, vous en parlez.
Addict, je ne pense pas avoir employé ce mot, en tout cas. Je pense que mon tableau de chasse est beaucoup plus modeste que ça.
D'ailleurs, je lis un autre extrait de « Choses dites » de Nancy Houston à l'Iconopop. Vous allez voir, c'est toujours ce début d'histoire d'amour, c'est ce commencement. Je le lis, après je vous donne le livre, vous le lisez en anglais. « Je suis si solitaire. » Alors c'est très drôle. « Je suis si solitaire, as-tu soupiré. J'ai une vieille douleur indéracinable. Je m'en occupe, ai-je répondu. Quoi ? Fit-il en bondissant. Et détruire ma profession, mon travail, ma vocation sacrée. Salope castratrice. » Je vous laisse le dire en anglais.
Poetry. I am lonely, you said. I have a deep, ineradicable pain. I can fix that, I said. What, you said, and destroy my profession, my calling, my sacred vocation? Castrating bitch!
Merci beaucoup, Nancy Houston. J'adore comment vous lisez. Je trouve que c'est très différent, d'ailleurs, en anglais et en français. C'est marrant, hein. C'est d'ailleurs ça aussi, vous passez ce fait de passer comme ça entre les langues permet d'entendre des résonances différentes.
Et je pense que tout le monde devrait parler au moins deux langues pour faire cette expérience que nous changeons aussi, pas seulement de langue, mais un petit peu de personnalité quand nous changeons de langue et même d'opinion.
Ouais, c'est ça.
Et donc ça laisse un petit tremblement d'identité qui est bon pour tout le monde. Ouais. Les identités figées, fixes et solides sont très dangereuses.
Ça, c'est sûr que ça nous ferait du bien de découvrir un peu ce multiple au cœur de l'identité. On va laisser résonner cette belle idée en écoutant Arlo Parks, Jasmine.
Mama, heart is stolen. Baby, dream come true.
C'était Arlo Parks, Jasmine.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nancy Houston, nous sommes toujours avec vous, nous parlons de votre dernier recueil, Chose dite, où vous parlez du commencement de l'amour. Nous parlons aussi de bien d'autres choses. On a entendu vos propos sur le féminisme très intéressants. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour toutes ces raisons, l'érotisme est menacé ?
Ben, si j'en juge par les productions littéraires récentes, je dirais que non, on ne parle que de ça, en gros. Ouais. C'est le thème central, c'est ça qui me frappe le plus. J'ai pas envie d'employer le mot de décadence, mais je suis frappée de voir là encore que si on regarde la littérature des pays africains, la littérature d'Amérique du Sud, il y a vraiment des sujets autres. Et c'est le problème de mon désir semble être vraiment très central chez nous. Ensuite, c'est parce que ça pose problème, bien sûr, quand on secoue les habitudes séculaires en la matière et on dit, ben voilà, les hommes et les femmes ne vont plus se rencontrer et s'entendre de cette façon-là. Donc, comment vont-ils pouvoir s'entendre ou pas ?
Avec cette espèce de l'obsession de certaines féministes américaines de contractualiser le désir.
Donc oui, il y a ça, il y a les sex toys, il y a la pornographie, il y a une immense obsession avec l'érotisme dans nos sociétés. Ça n'a jamais été aussi central, je pense, dans les préoccupations humaines, dans l'histoire. Mais de là à résoudre le problème, ben, je crois que ça ne risque pas.
Tant mieux, on est rassuré. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué ce proverbe africain, comme quoi la vie nous fait des cadeaux en bien et en mal. On a vu que peut-être, pour que la vie nous fasse un cadeau en mal, il fallait qu'on sache sublimer quand même cette douleur, cette blessure, qu'on ait les mots, qu'on sache écrire. Vous faites beaucoup de très belles lectures, vous faites résonner les mots. Je voudrais savoir le meilleur cadeau que la vie vous a fait en bien.
Eh bien, je pense que c'est sans doute la rencontre avec Tsvetan Todorov.
Oui.
Parce que, pas seulement parce que c'était quelqu'un qui m'a toujours soutenue comme écrivaine et qui a eu confiance en moi bien avant que moi-même je n'ai confiance en moi, mais aussi parce qu'il m'a montré la dignité de la vie quotidienne.
Ah oui.
Je ne vais pas dire parce qu'il m'a faite mère, enfin je pourrais dire ça, c'est vrai aussi, mais bien avant. Et là, évidemment, si j'ai pu m'intéresser à l'enfance de ces professeurs de désespoir, c'est aussi parce que j'avais ce contre-exemple à la maison pendant plus de 30 ans, de quelqu'un qui avait grandi avec une mère, qui était une femme qui voyait une véritable valeur dans les activités de cuisiner et de recevoir et de nettoyer la maison, de laver les rideaux, de faire du jardinage, parce que c'était par amour. Et Tsvetan avait bien sûr une grande passion pour les livres et pour le savoir dans tant de domaines, mais il avait aussi une véritable passion pour la cuisine et pour le jardinage et pour la vie quotidienne. Et
pour le foyer,
Pour le foyer, puis pour les artisanats. Et quand on devait commander des travaux et discuter avec les artisans, il était lui-même très, très bricoleur. Et donc, il n'y avait pas en lui, comme en tant de gens et surtout tant d'intellectuels, cette scission avec une survalorisation de l'esprit, comme c'est chez Sartre et Beauvoir, par exemple, typiquement, et une dévaluation des choses du corps. Et comme moi, j'étais moi-même dans cette optique très jeune, j'étais anorexique, j'étais anti-enfant, j'étais férocement féministe, etc. J'étais une vraie combattante presque toute petite. Il m'a calmée, oui, il m'a fait aimer la nature, les promenades, il m'a appris à faire du vélo, c'est pas rien. Voilà, c'est une reconnaissance éternelle.
Ça veut dire qu'il vous a appris
Je ne savais même pas faire du vélo à 25 ans.
Il vous a appris la nuance, en fait, aussi.
Oui, il m'a appris à respecter les petites choses, être attentive aux beautés simples.
Parce que finalement, on pourrait dire, mais dites-moi si je me trompe, que votre mari, donc sémiologue français bien connu, Tsvetan Todorov, vous a réconcilié avec le foyer, avec la quotidienneté, avec cette modalité de cette vie-là, des petits-enfants qu'on voit grandir, qui est précisément ce qui a fait que votre mère vous a abandonné. C'est la peur de ça.
C'était comme une mère, d'une certaine façon. Après, j'ai été amenée à me séparer de lui quelques années avant sa disparition. Et donc, notre histoire a connu beaucoup, beaucoup de de haut et de bas, comme tous les mariages. Mais sur le fond, je dirais, c'est le plus beau cadeau en bien.
Voilà, le plus beau cadeau en mal, ben on le connaît, hein, c'est votre mère vous abandonnant. Vous avez travaillé avec Roland Barthes sur les jurons. Alors, je voudrais qu'on finisse là-dessus. Quel est votre juron préféré? Mais surtout, plus radicalement, qui auriez-vous envie d'insulter?
Oh, mais ces jours-ci, j'ai envie d'insulter Milei, le nouveau président de l'Argentine, parce que j'étais en Argentine récemment et je suis un peu désespérée de voir ce retour de l'extrême droite dans tant de pays, pas seulement lointains, mais des pays extrêmement proches. Ouais. Et puis, quand j'ai travaillé sur les jurons, c'était aussi parce que je ne suis pas du tout une universitaire dans l'âme, donc il fallait que je prenne quelque chose qui soit un peu transgressif en soi, comme thème. Mais j'ai été frappée par le fait que les Japonais avaient une langue très châtiée, et on m'a dit que la pire insulte là-bas, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai retenu ça depuis toutes ces années, c'était de traiter quelqu'un de... sœur de patate douce.
Eh bien écoutez, c'est assez amusant cette blague japonaise. Je propose de terminer plus encore avec une note qui n'est pas du tout celle du début, en écoutant la voix de Jean Genet. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, l'expression professeur de désespoir vient précisément de Jean Genet.
Je suis, je crois, doué pour le bonheur. C'est-à-dire que je le fais facilement. J'aime être heureux, naturellement. Et aimant être heureux, je me suis patiemment, précisément dans cette solitude, donné toutes les petites armes qui peuvent donner le bonheur. Ce sont de toutes petites armes, vous savez, on les fait soi-même, ce sont des choses faites à la maison. C'est de petits instruments qu'on aiguise soi-même jour après jour, sur des petites pierres qu'on a trouvées soi-même. Et alors, on finit par être très armé par toutes ces petites armes contre le malheur. Et on fait son bonheur petit à petit. Je suis très habile à faire mon bonheur.
Merci beaucoup Nancy Houston, c'était un vrai plaisir et un honneur de vous recevoir. Je recommande votre dernier recueil de poésie, Chose dite, aux éditions L'Iconopop, où il est question de cette histoire qui commence, dont on sait qu'elle va finir mal. Je recommande aussi, parmi vos 50 livres, Professeur de désespoir, qu'on trouve chez Babel, où il y a une radiographie comme ça, de ce pessimisme idéaliste, de ce nihilisme d'hommes qui ne connaissent pas la vie, qui ne savent pas ce que c'est que la beauté du quotidien des enfants, et qui ont souvent souffert du manque de mère. Je vais essayer de définir la philosophie de la vie qu'on a entendue, une philosophie évidemment féministe, mais un féminisme doux, une philosophie qui veut l'amélioration, qui veut la douceur, une philosophie aussi de la nuance, et puis quand même qui conserve en soi quelque chose d'une radicalité. Jean Genet dit quelque part qu'il est doué pour le bonheur, et on a compris que finalement, eh bien avec tout ce parcours qui est le vôtre, et notamment grâce à cette histoire avec Stéphane Todorov, vous avez fini, vous aussi, en commençant difficilement, par être finalement doué pour le bonheur. Merci beaucoup Nancy Houston.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Estelle Gap, réalisée par Josépha Lebrun, à la technique Renan Mahé, à la programmation musicale Valentine Chedebois. Quant à moi, je vous retrouve demain matin 9h avec le grand philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa. À demain.